Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Et bonjour, c'est Glenn Sellier, journaliste aussi chez Eurosport.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato et bonne année Glenn.
C'est vrai qu'on ne s'était pas vu, on a eu la chance de la semaine dernière de faire l'émission avec Cyril et donc Julien qui revient avec bonheur.
On est en plein cœur de ce mois de Mercato hivernal. On a donc logiquement beaucoup de jolis sujets à évoquer. Et notamment une actu assez chaude quand même, puisque l'information a été sortie par nos confrères de l'équipe mardi soir. Matteo Guendouzi pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On va se poser une question très simple en première partie. Est-ce que l'OM doit le lâcher dès cet hiver? Parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers derrière.
Ouais, vrai point intéressant. L'autre sujet, notre deuxième sujet, ce sera sur Marcus Thuram qui anime le mercato cet hiver. On entend parler de lui un peu partout en Europe. Et du coup, on va tout simplement se poser une question simple. Quelle est la meilleure option pour Marcus Thuram?
Et puis, en troisième partie, on parlera d'un transfert, ou plutôt d'un prêt, ouais, qui, lui, a déjà été bouclé. C'est celui de João Félix à Chelsea. On va se poser une question très simple. Est-ce que c'est un prêt qui arrange tout le monde, c'est-à-dire le joueur, l'Atlético et, évidemment, Chelsea? Troisième partie.
Et pour finir, pour conclure en beauté, j'allais dire, on va recevoir l'excellent Quentin Guichard, évidemment, pour le
Merca Quiz.
Eh oui.
J'ai perdu tous mes automatismes en plus.
Eh,
je suis écoute, pas bien.
Moi, je les ai toujours pas. Ça tombe bien. On pourra se régaler.
Première partie, on y va, Glenn. L'OM doit-il lâcher Matteo Guendouzi cet hiver? On rappelle l'information de nos confrères de l'équipe sortie mardi soir. Matteo Guendouzi fait l'objet d'une offre d'un club de Première Ligue, une offre de contrat. Il n'y a pas eu encore de proposition faite à l'Olympique de Marseille, mais a priori, c'est quand même plutôt sérieux, c'est quand même largement envisageable. Et puisque Matteo Guendouzi est un joueur important quand même de l'Olympique de Marseille, bah c'est un sujet qui doit être pris au sérieux, notamment par Pablo Longoria. Donc on se pose cette question, est-ce que l'OM doit le lâcher parce qu'on évoque un montant quand même assez important?
On évoque la possibilité d'avoir un club qui a les moyens et qui, de Première Ligue et qui du coup pourrait venir avec une offre conséquente.
On parle de plus de 30 millions d'euros. Ouais. Alors encore une fois, il n'y a pas eu d'offre sur le bureau de Pablo Longoria, mais on serait plutôt dans ces eaux-là, étant donné que Matteo Guendouzi était quand même avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, qu'il sort de deux saisons, enfin d'une saison et demie plutôt très correcte, notamment avec Sampaoli, ça se passe un tout petit peu moins bien avec Tudor, mais c'est quand même largement convaincant. Et donc, l'OM pourrait récupérer une jolie somme. On rappelle que Matteo Guendouzi était arrivé en provenance d'Arsenal, d'abord sous la forme d'un prêt, avec option d'achat obligatoire autour de 11 ou 12 millions d'euros. Donc derrière, il y a possiblement une belle plus-value, mais est-ce que cette belle plus-value vaudrait la perte sportive, tout simplement?
C'est un vrai sujet là-dessus. Alors on le rappelle il a signé l'année dernière vraiment avec Marseille. Il est en contrat jusqu'en 2025 avec le club phocéen. Ça change pas mal de choses parce qu'évidemment la durée du contrat est assez longue et donc forcément il va falloir l'acheter et l'acheter cher pour le faire venir, pour le faire partir surtout de Marseille. Alors moi, oui, il y a plusieurs choses qui me font penser que ce n'est pas exclu qu'il parte. Tout simplement parce que Pablo Longoria, pour le moment, n'a pas l'air d'être enclin à parler de départ ou en tout cas de vouloir vendre certains joueurs et surtout des joueurs cadres de l'effectif. Mais on sait aussi qu'avec Pablo Longoria, tout est possible. C'est-à-dire que s'il y a une belle offre qui arrive, ça peut aider les finances marseillaises qui, on le rappelle, ne sont pas forcément dans le rouge à l'heure actuelle. La DNCG, d'ailleurs, a validé le projet marseillais il y a quelques semaines maintenant. Donc, mais une belle offre à Marseille, tout est possible avec Pablo Longoria parce qu'en gros, ça peut changer des choses, ça peut lui permettre aussi d'investir ailleurs. Et en plus, moi, l'une des raisons qui me fait penser que c'est jouable, c'est son cas personnel à Guendouzi. On sait qu'il n'est pas forcément hyper fan de Tudor. C'est pas du tout la relation qu'il entretenait avec Sampaoli l'année dernière. Et surtout, derrière, on parle d'un club de Première Ligue. Alors, il y a l'attrait de la Première Ligue parce que c'est un championnat qui fait rêver beaucoup de monde. On sait que Guendouzi a le profil pour pouvoir s'imposer là-bas, pour son impact qu'il met au milieu de terrain. C'est un peu un joueur box-to-box qui peut plaire à beaucoup d'équipes en Première Ligue. Et surtout, ce qui me fait dire qu'il pourrait partir, c'est que visiblement, l'équipe en a parlé, ce serait Aston Villa qui serait derrière. Et à Aston Villa, maintenant, sur le banc d'Aston Villa, il y a un coach qui s'appelle Unai Emery, un coach que Guendouzi connaît très très bien pour l'avoir eu à Arsenal. C'est lui qui l'a, comment dire, qui l'a lancé vraiment à Arsenal. Il s'est épanoui avec Guendouzi, avec Unai Emery, et ils ont une relation un peu particulière. Et visiblement, si Unai Emery est derrière tout ça, je peux comprendre que peut-être que Guendouzi va frapper à la porte de Pablo Noria pour dire moi, finalement, ça me tente bien ce projet.
Alors, pour revenir à la question, l'OM peut, tu l'as dit, l'OM peut largement.
Parce que s'il y a 30 millions.
Parce qu'il y a beaucoup, effectivement beaucoup de raisons de le lâcher, en tout cas financièrement. Aussi parce que c'est Pablo Longoria et que ça fait partie de sa politique à lui d'acheter et de revendre des joueurs. On sait aussi que il avait acheté ces joueurs-là, il était allé chercher ces joueurs-là pour Sampaoli et que maintenant qu'il a Tudor, il cherche à lui donner des joueurs dont il a vraiment besoin. Il se trouve que Guendouzi, depuis le début de la saison, en tout cas une majeure partie du temps, il a évolué juste derrière l'attaquant, ce qui n'est pas vraiment son poste naturel, ce qui n'est même pas du tout son poste naturel, et ce qui a forcément fait un petit peu baisser son rendement. Donc sportivement, Guendouzi est moins essentiel que la saison dernière, même si moi je suis toujours convaincu que c'est un joueur... un très bon joueur, que l'OM finalement n'a pas beaucoup de joueurs de cette qualité-là dans son effectif. Donc sportivement, je pense que l'OM peut s'en passer. Je pense que l'OM et Pablo Longoria sont capables de le remplacer. Maintenant, il n'y a pas que le sportif, il y a aussi l'impact sur un groupe, parce que Guendouzi est un vrai leader de vestiaire. Ouais. Ça, on le voit de toute façon sur le terrain, ça se voit à l'œil nu. Et que ça va encore donner l'illusion que finalement Marseille est devenu sous Longoria une espèce de dépôt vente où les joueurs viennent et repartent en fonction des besoins et des résultats. Je ne suis pas sûr que ça ait un impact positif sur le groupe. Je pense à d'autres joueurs, notamment comme Dimitri Payet, pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ça va mieux ces dernières semaines pour des raisons conjoncturelles, mais globalement, depuis le début de la saison, ce n'est pas trop ça. Je ne suis pas sûr que le signal envoyé, même auprès des supporters, parce que Guendouzi, c'est un vrai joueur marseillais dans l'âme, en tout cas, même si il n'était pas forcément prédestiné à jouer à l'OM à la base, mais en tout cas, dans le caractère et dans l'âme, c'est un vrai Marseillais. Je ne suis pas sûr que ce soit positif, même si, effectivement, avec une plus-value qu'on peut imaginer à plus 20 ou plus 25 millions d'euros, on sait que Longoria est capable d'aller chercher un joueur qui, pour le coup, lui, apportera probablement plus à ce poste-là de deuxième attaquant, de soutien de l'attaquant.
Surtout qu'il a déjà recruté, on le sait, quelqu'un dans les, dans les derniers jours, qui rentre un peu dans le profil recherché par Tudor à ce poste-là de milieu offensif derrière l'attaquant. C'est un joueur assez polyvalent, l'Ukrainien, il est capable clairement de jouer à ce poste-là. Donc c'est vrai, moi c'est plus ce qui me turlupine, c'est je me demande un peu ce que veut Marseille, c'est-à-dire que Marseille est à la troisième place du championnat. On sait ce que Marseille ambitionne cette année en championnat, d'aller récupérer la Ligue des Champions encore une fois. Et je trouve que le message envoyé, si Marseille perd Guendouzi, serait vraiment un peu catastrophique. Parce qu'en effet, c'est ce que tu dis, je pense qu'il a séduit beaucoup de supporters marseillais par sa mentalité sur le terrain, ce qu'il apporte, etc. Et c'est quelqu'un qui représente un peu, pour moi, Marseille à l'heure actuelle, par son état d'esprit. Et je trouve que le perdre en cours d'année... Eh ben, je pense que ce serait très compliqué de remplacer, alors peut-être pas sur le plan de jeu, mais en tout cas dans l'état d'esprit, je trouve que ce serait très très compliqué de perdre un joueur de ce gabarit-là, surtout qu'ils ont déjà perdu, et on va revenir tout à l'heure, un joueur majeur pour moi dans l'effectif, qui est Amine Harit.
Tout à fait, alors sur blessure. Et d'ailleurs, si on prend le point de vue global, globalement, il y a 4 joueurs qui ont vraiment été très importants la saison dernière. Ouais. C'est Payet, Saliba, Guendouzi et Gerson. Alors Saliba, l'OM n'a rien pu faire, même s'il a essayé, donc c'est un petit peu un cas à part. Ouais. Gerson, il est déjà parti. Payet, c'est un petit peu plus compliqué depuis le début de la saison. Et Guendouzi, on parle de son départ. Donc globalement, pour revenir à cette impression générale-là, on voit que c'est pas terrible. Et puis... il y a quand même une chose, c'est qu'on n'est pas sur un joueur qui a pris une hype monumentale à la Coupe du Monde. On en a déjà parlé lors des émissions précédentes. On est sur un joueur qui est plutôt constant depuis un an et demi, dont on connaît les qualités et qui, sauf accident, devrait pouvoir partir pour un montant similaire cet été. Et là, effectivement, ce serait quand même beaucoup plus simple pour l'OM pour se retourner. Et même en termes de cycle, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sain que d'un départ cet hiver un petit peu à la hâte sur la première offre.
Et il n'y a aucune urgence à le vendre. C'est encore un joueur qui est jeune, il a 23 ans, Guendouzi. Il est pour moi sur la phase. Alors, même si évidemment le poste là, à laquelle il jouait cette année n'a pas favorisé ça, comment dire, ça, pour le mettre en avant, mais je pense qu'il n'y a aucune, vraiment aucune urgence, je le répète, à vendre Guendouzi cet hiver, à la fois sur le plan sportif pour Marseille et parce que je pense que dans 6 mois, sauf offre exceptionnelle d'Aston Villa, il y aura encore des offres, à mon avis, notamment d'Aston Villa, si vous n'avez encore là, parce que voilà, c'est un joueur qui plaît énormément au coach basque, à l'ancien coach du PSG. Donc je vois pas de raison de s'emballer à l'heure actuelle, surtout que les finances, on le répète, les finances marseillaises ne sont pas forcément dans le rouge. En tout cas, c'est pas les
plus autant qu'avant.
Plus autant qu'avant, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas de nécessité absolue d'aller vendre, sauf si, bien sûr, Pablo Longoria veut encore recruter et qu'il a encore des noms, s'il a toujours des noms, je pense, Pablo Longoria de toute manière, mais qu'il a encore des noms qu'il veut attirer pour ajouter à son projet actuel.
Ça créerait aussi quand même une petite, une vraie contradiction avec son discours, en tout cas son discours officiel. On a retrouvé une petite déclaration qui date du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, de Pablo Longoria, donc le président de l'Olympique de Marseille, qui disait « Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d'exploitation à fin d'année. Il faut faire du football avec l'argent qu'on a. Pour nous, la chose la plus importante, c'est le projet sportif. » On est quand même en droit de penser que Matteo Guendouzi a un vrai rôle à jouer dans ce projet sportif-là.
Clairement. Et que sa vente ne rentrerait pas dans l'idée qu'on se fait de la décla de Longoria.
Voilà. On a fait le tour sur sujet. On va pouvoir passer à un autre international tricolore qui lui aussi est sur le départ. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus logique, à savoir Marcus Thuram, le joueur de Mönchengladbach, qui a attiré beaucoup de clubs européens. On va vous les donner évidemment et puis on va se poser la question de savoir quelle pourrait être la meilleure destination pour lui. Pour le joueur, on va prendre le point de vue joueur, Marcus Thuram, c'est un joueur qui refait parler de lui. Il y a une petite période de creux ces derniers mois. Là, ça s'est largement amélioré juste avant la Coupe du Monde. Il a fait de très belles entrées en Coupe du Monde. Et globalement, il attire beaucoup de clubs maintenant.
Ouais, on va expliquer pourquoi, notamment, il rappelle les clubs. Alors, on sait que l'année dernière, il avait connu une deuxième partie de saison, notamment beaucoup moins séduisante. Et que s'il refait parler de lui, c'est notamment lié à deux choses particulières. Son contrat, parce qu'en fait, il est en fin de contrat en juin prochain. Et l'autre chose, c'est qu'il a été repositionné en tant qu'attaquant en Allemagne et qu'il brille depuis le début de saison. Il est quand même à 13 buts en 17 matchs. Il montre que c'est un vrai avant-centre, qu'il est capable d'être prolifique à ce poste-là. Et forcément, ça plaît et ça a tapé dans l'œil de beaucoup d'équipes, grandes équipes, j'allais dire, européennes. Et du coup, cet hiver, on entend parler de lui un peu partout en Europe. C'est assez colossal. Pour vous faire une liste un peu de tous les clubs évoqués, il y a le FC Barcelone, ça c'est vraiment tout récent. Il y a le Bayern Munich, Chelsea, l'Inter Milan, Manchester United ou encore, c'est un peu moins prestigieux que tous les clubs qu'on vient d'évoquer, mais encore Aston Villa.
Décidément.
Oui, qui est un peu partout parce que Aston Villa a les moyens et vient de changer de coach du coup avec Unai Emery. Ils ont un projet, ils ont envie de revenir sur le devant de la scène. Du coup, Julien, quelle est la meilleure option pour toi dans tous ces clubs qu'on a évoqués? Parce que vraiment, pour le moment, tout a l'air un peu ouvert et on sait qu'il pourrait partir cet hiver, mais aussi rester et prolonger et continuer l'aventure pour partir libre l'été prochain, où là, il aura vraiment, lui, les mains totalement libres, justement, pour choisir où il veut jouer l'année prochaine.
Alors, je vais prendre la solution la plus simple, mais qui est pour moi la plus évidente aussi, c'est le Bayern Munich, pour plein de raisons. D'abord parce que la Bundesliga, il connaît. Ensuite, parce que c'est maintenant la suite logique des choses, notamment pour le Bayern Munich, qui a fait du recrutement de joueurs français une vraie tradition, je veux dire. C'est aussi l'assurance pour lui, quand même, d'avoir un vrai cadre sain. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Chelsea, par exemple, où on a un petit peu de mal à voir à quoi doit ressembler le projet. Même à l'Inter, c'est un petit peu plus compliqué. Manchester United, c'est encore en construction, et je ne suis pas sûr que ce soit le profil de joueur idéal pour Ten Hag. Donc pour moi, le Bayern, c'est vraiment la solution idéale. Et parce qu'en plus, je trouve que ce qu'il a montré, notamment à la Coupe du Monde, dans son attitude, je l'ai trouvé très solaire, je l'ai trouvé très ouvert, très intéressant en conférence de presse. Je trouve que sur le terrain, l'attitude est bonne. Je trouve qu'il est à l'écoute aussi. Et que toutes ces qualités-là peuvent lui permettre de s'imposer au Bayern Munich. Ou rappelons quand même que l'attaquant le plus prolifique depuis le début de la saison, c'est Éric-Maxime Choupo-Moting. Alors, encore une fois, Éric-Maxime Choupo-Moting est un joueur de qualité. Il fait une super saison. Ouais. J'ai quand même tendance à penser que Marcus Thuram peut au moins à moyen terme prendre cette place-là et que finalement, même sur l'aspect technique, il a beaucoup évolué sur le jeu de haut but. On l'a d'ailleurs vu avec l'équipe de France, notamment en finale de la Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien. Donc il a une vraie palette, il sait faire beaucoup de choses, il est jeune, il a les pieds sur terre. Je pense que là, on peut voir un petit peu l'impact de Papa Lilian. Donc,
on l'a vu dans sa carrière, d'ailleurs, tout au long de sa carrière. On sait que d'ailleurs, Lilian Thuram est derrière sa carrière et ses chaudes carrières entre Guingamp, après Sochaux, puis l'Allemagne dans un club, tout un bon club, mais un club où il pouvait s'imposer. Tout est bien réfléchi. Ouais.
Donc pour moi, c'est la suite logique et c'est même la suite évidente. Et c'est pour moi la solution idéale à la fois pour le joueur et même pour le Bayern Munich.
Je suis assez, même totalement d'accord, et tu l'as très bien dit, c'est vrai que le Bayern rentre, coche beaucoup, beaucoup de cases, et je trouve que ça irait dans cette, logique de carrière que Marcus Thuram a mis en place depuis le début de ses débuts en pro. Je trouve que c'est vraiment le pari séduisant, le Bayern, et puis il y a vraiment un coup à jouer, parce qu'on le rappelle, il n'a que 25 ans encore, donc il a tout le temps, vu ce qu'il montre au poste d'avant-centre. Je pense que ce serait pas mal. L'autre option dans cette liste qui rentre pour moi, qui est peut-être le deuxième club, et c'est assez étonnant parce que je te rejoins, je trouve que au Bayern au moins il y a cette stabilité pour quelqu'un comme lui qui a l'air très réfléchi, on sait où il veut aller, comment il veut y aller. Je trouve que c'est peut-être un peu moins percutant comme ça parce que c'est un projet qui est en train de naître. C'est pour moi Chelsea parce qu'il y a un poste pour moi qui est trouver là-bas, c'est vers l'avant-centre, parce que je trouve que Chelsea manque d'un vrai buteur, que Aubameyang n'a pas fait ses preuves et que c'est pas ça. Du coup, il joue avec Havertz, Graham Potter depuis le début de saison, et que devant en pointe la plupart du temps. Et je trouve qu'il manque d'un vrai neuf à Chelsea, et que Marcus Thuram a montré depuis quelques mois que c'est un vrai neuf, qu'il a le profil typique pour s'imposer aussi en première ligue. Entre le côté son physique, c'est quand même un joueur qui fait 1m92, il est rapide, il est percutant, il est hyper puissant, il est habile balle au pied. Il coche beaucoup de cases pour rentrer dans le style de jeu que Graham Potter veut mettre en place à Chelsea. Et ce qui me fait dire que ce serait séduisant, même si Chelsea est un peu, on ne sait pas trop où ça va, ça pioche un peu à droite, à gauche, etc. L'autre club évoqué, ou moins pour moi, j'y crois pas trop et je vois pas trop ce qu'il ferait là-bas, c'est le FC Barcelone, parce que justement il y a Lewandowski qui est devant, sur les côtés il y a quand même du beau monde aussi. J'ai l'impression que c'est, on parle du Barcelone parce que en gros il est en fin de contrat et que le FC Barcelone depuis un peu plus d'un an maintenant se place sur tous les joueurs en fin de contrat, même s'il n'y a pas forcément une logique sportive derrière. Même si, évidemment, ajouter Marcus Thuram au FC Barcelone, à l'équipe du FC Barcelone, c'est un plus parce que c'est un joueur très talentueux. Mais je ne vois pas ce qu'il irait faire là-bas.
Puis il y aurait même une incohérence un petit peu technique parce que le Barça joue avec deux vrais ailiers, purs ailiers provocateurs, ce que Marcus Thuram n'est pas. Et qu'en pointe, il y a Lewandowski, qui est lui un vrai pivot, un vrai finisseur, ce que Marcus Thuram, pour le coup, n'est pas non plus. Il a quand même besoin d'un peu d'espace pour s'exprimer. Donc. Là pour le coup il n'y a rien qui colle avec le Barça.
À part
Barça.
L'opportunité de marché, c'est ce que tu dis, sportivement il n'y a pas de logique.
Et puis après il y a une solution qu'on pourrait appeler la solution pourquoi pas, c'est rester moi j'ai Gladbach 6 mois, tu l'as évoqué en tout début de sujet.
Il est bien là-bas. Hein.
Finir sa saison comme il l'a commencé, et puis de toute façon ces options-là il les aura peut-être même encore plus l'été prochain, et ce qui ne serait pas une mauvaise décision, et ce qui ne serait même pas une perte de temps non plus.
Non, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est bien de continuer sur sa lancée, s'affirmer encore un peu plus dans ce poste de numéro 9 qu'il a retrouvé cette saison. Et après, choisir calmement cet été où il veut poursuivre sa carrière, au lieu d'aller peut-être faire des choix, attendre de voir peut-être justement ce que donne le Chelsea de Graham Potter pour se lancer.
Justement, Chelsea de Graham Potter. Encore une belle transition. Tu vois, j'ai perdu certains automatismes, mais pas celui des transitions.
J'admire ces petites transitions qui font toujours plaisir.
Chelsea, on en parle dans notre troisième partie parce qu'on voulait rebondir sur ce prêt de João Félix, le milieu de terrain offensif attaquant de l'Atlético Madrid, qui est prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Prêt payant de 11 millions d'euros quand même, ce qui n'est pas rien. Pour un joueur qui était un petit peu perdu à Madrid.
Prêt payant. Alors, c'est intéressant. Il faut souligner un peu les conditions du prêt. C'est-à-dire que l'Atlético voulait en effet s'en séparer cet hiver, mais pas à n'importe quelle condition. Donc, c'est-à-dire, c'est un prêt payant à 11 millions d'euros, ce qui n'est pas toujours courant, hein, une somme aussi
ce qui est rarissime.
Ouais. Chelsea va prendre en charge l'intégralité de son salaire. Et surtout, il n'y a pas d'option d'achat, visiblement, selon les dernières rumeurs évoquées. Et surtout, l'Atlético a réussi à négocier que Félix prolonge d'une saison supplémentaire pour qu'il soit lié jusqu'en juin 2027 avec les colchoneros. Donc, c'est-à-dire, il y a une volonté quand même de garder la main, j'allais dire, de l'Atlético. Pour le moment, pour moi, pour être franc, je trouve que l'Atlético Madrid est 100% gagnant dans ce prêt, parce qu'on le sait, João Félix, je pense qu'on va en parler, ne vous rentrez pas forcément dans les plans de Diego Simeone, qu'on avait un peu marre, j'allais dire, de ce garçon, malgré son talent qui est pour moi important.
On peut juste faire une petite précision, encore une fois, sur le plan financier. C'est quand même un joueur qui a coûté 127 millions d'euros à Atlético. Et que s'il n'y a pas d'option d'achat, c'est parce que l'Atlético ne veut pas perdre d'argent sur ce transfert-là, que le risque était grand quand même de perdre de l'argent, puisque ça se passait pas très bien ces derniers mois, on va en reparler juste après. Et que même s'il y a la question de l'amortissement, c'est quand même pas évident de lâcher un joueur comme João Félix dans cette période-là à même 90 ou 100 millions d'euros.
Et puis rien n'est réuni, vu ce qui se passait depuis le début de saison, etc. Ce serait même, à mon avis, ça aurait été une erreur de la part de l'Atlético.
Et puis il y a quand même une donnée qui est importante, c'est qu'a priori, la direction de l'Atlético croit encore en João Félix, croit encore en sa capacité à s'imposer,
même si
effectivement ces derniers mois, on a vu, c'était criant, qu'il y avait une vraie incompatibilité entre Diego Simeone et l'international portugais. Alors, je suis assez bien placé pour dire que, pour voir que plusieurs supporters portugais et soutien de João Félix en veulent beaucoup à Diego Simeone, moi j'ai plutôt tendance à penser que les torts sont partagés. Parce que oui, effectivement, Simeone, Félix, il y a une vraie incompatibilité technique parce que Félix l'a déjà dit d'ailleurs, même pendant la Coupe du Monde avec le Portugal, qu'il a besoin d'une équipe plus joueuse pour mieux s'exprimer, ce que n'est pas l'Atlético. Maintenant, on a quand même vu aussi que Félix, il avait ses hauts et ses bas, lui, sur le plan personnel, que son implication n'était pas toujours évidente. Et que bah, forcément, quand vous n'êtes pas impliqué à 100% avec un entraîneur comme Diego Simeone, et bah, ça ne se passe pas très bien.
Non, c'est ça. Et je pense qu'il était temps de passer à autre chose. Je pense que c'est plutôt une bonne option de la part de l'Atlético de chercher une porte de sortie pour qu'il puisse se montrer peut-être pendant 6 mois et de faire monter un peu sa cote et sa valeur. Là où je m'interroge plus, c'est sur notamment Chelsea, pourquoi Chelsea va le récupérer. Tout simplement parce que je trouve qu'ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de ce profil-là. On l'a dit déjà, pour moi, Chelsea avait notamment besoin d'un avant-centre parce qu'il joue avec un faux neuf devant qui est Kai Havertz, notamment parce qu'Aubameyang n'a pas donné satisfaction. Et du coup, j'attends de voir un peu comment Graham Potter va utiliser Félix, João Félix dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va le mettre sur un côté? Est-ce qu'il va le mettre en faux neuf? Est-ce qu'il va jouer avec deux attaquants devant pour l'avoir peut-être à lui devant un peu et derrière en soutien avec Havertz justement? Ça m'interroge un peu parce que je vois pas trop justement comment il va s'insérer là-dedans. Alors on le sait, Chelsea en plus est dans une situation un peu compliquée en championnat. Ils sont 10e de Première Ligue seulement et Chelsea est une équipe qui a le ballon, mais n'arrive pas vraiment à conclure. C'est une équipe qui a besoin justement de trouver comment améliorer cette dernière passe et à finir devant le but. Peut-être que João Félix a les qualités pour ça, mais sur le papier en tout cas, je pense qu'il les a. Mais le problème, c'est en effet comment il va s'insérer, comment Graham Potter va l'utiliser. Ça me laisse un peu dubitatif, j'avoue, sur l'intérêt des Blues sur ce transfert-là, sauf si peut-être, et ça on attendra de voir parce qu'on le sait, Todd Boehly est visiblement désireux de s'activer durant ce marché des transferts, et peut-être qu'il a une autre option derrière et qu'ils vont encore recruter devant. Mais oui, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur le terrain.
Moi, je vais être beaucoup plus radical. Pour moi, c'était la pire solution possible d'aller à Chelsea, parce que déjà se relancer. Chelsea, c'est quasiment le piège pour tous les joueurs qui cherchent à se relancer,
ouais.
Ou même qui cherchent à lancer leur carrière. On a un nombre d'exemples colossal. Je pense à Werner, là, qui me vient à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. Même sur le jeu, je ne suis pas sûr que Félix ait la caisse physique, sur l'intensité notamment, pour évoluer en Première Ligue. Et s'il devait aller en Première Ligue, s'il y avait d'autres options possibles en Première Ligue, je l'imaginais beaucoup plus dans tous les autres clubs quasiment du Big Six. Manchester, pour moi, c'était plus logique. Liverpool City, c'était parfait parce qu'il y a la verticalité à Liverpool.
Ouais.
Il y a l'ADN technique à Manchester City. Pour moi, Chelsea, même la question du projet, on l'a déjà évoqué, mais j'ai du mal à voir où va Chelsea. Donc, réussir à rebondir en 6 mois dans un club où il y a autant de flou, dans un championnat qui, a priori, n'est pas idéal pour Félix, s'il y parvient, ça sera pour moi un exploit et ça sera une vraie surprise, parce qu'honnêtement, je suis un petit peu pessimiste sur ce prêt-là, pour le joueur en tout cas.
Ouais.
Et même du coup pour les deux clubs, parce que l'intérêt pour les deux clubs, c'est que le joueur cartonne sur les 6 premiers mois.
Bah après, l'Atlético va au moins récupérer 11 millions d'euros, ce sera toujours ça, et va pas payer son salaire pendant 6 mois, et pourra essayer de le vendre ou de le conserver pour essayer de le mettre en avant dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour le moment, tu as totalement raison, Graham Potter, qui pourtant faisait des petits miracles ou avait mis en place un jeu hyper séduisant avant à Brighton. C'est
plus compliqué.
C'est quand même
mais tout
compliqué,
est plus compliqué à Chelsea.
Ouais, c'est ça, mais comme souvent.
Comme souvent, et juste pour revenir sur ce que je disais en début de cette partie-là, moi j'avais vraiment espoir que Diego Simeone réussisse à faire de Félix une sorte de Griezmann ultime, c'est-à-dire de prendre un joueur jeune qui a une qualité technique assez extraordinaire, parce que pour moi je continue de penser que Félix est complètement à part dans cette catégorie-là, et qu'il arrive à le façonner tactiquement sur l'intensité, sur la rigueur, pour faire un joueur ultra complet à la Griezmann. Il se trouve que c'est pas aussi simple que ça, et qu'il faut aussi que ça vienne du joueur, et qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté du joueur. Et j'ai l'impression que Félix ne l'a pas eu, et qu'il ne l'aura peut-être jamais. Non. En tout cas, c'est à lui de le prouver sur les prochains mois. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas cette volonté-là, pour vous imposer en Première Ligue, ça va être très compliqué. Donc je suis plutôt pessimiste, mais j'espère me tromper.
Je reste convaincu que son transfert aussi haut, aussi jeune, ne l'a pas non plus aidé pour faire justement peut-être tous les efforts nécessaires pour s'imposer dans un projet de jeu comme celui de Diego Simeone. Ça, c'est un autre débat. L'autre truc du coup où ça pose question, c'est l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid a quand même perdu du monde en attaque cet hiver. Il y a Cunha qui est parti à Wolverhampton.
Oui, il y a Jorge Mendes qui a fait son petit marché.
Eh oui.
Comme tous les 6 mois.
comme régulièrement. Et du coup, avec João Félix, ça fait quand même 2 joueurs du domaine offensif qui partent. Et du coup, l'Atlético cherche à compenser ses départs. Et plusieurs noms ont été évoqués ces dernières heures, j'allais dire. Il y a notamment Aubameyang à Chelsea, qui est dans une impasse à Chelsea. Il y a Memphis Depay au FC Barcelone, qui est lui aussi dans une impasse chez les Catalans. Il y a Borja Iglesias du Betis. Et enfin, André Silva qui est à Leipzig. Du coup, question simple, Julien. Qui serait pour toi la meilleure option pour compenser et s'insérer dans ce projet de jeu justement de Diego Simeone?
Alors, j'ai envie de te dire aucun. Honnêtement, quand on voit le jeu de l'Atlético qui est si particulier, finalement, le joueur dont ils ont besoin, c'est d'un Morata plus efficace ou quelque chose comme ça. André Silva, c'est le profil Morata. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus efficace. En tout cas, c'est le joueur que j'imagine le plus dans ce schéma-là. Ce qui est sûr, c'est que dans cette liste, il n'y a aucun joueur qui a le profil.
En tout cas, il y en a qui n'ont vraiment pas le profil pour moi. Pas le profil de s'insérer dans le projet de jeu.
Voilà, il y a 2 choses. Est-ce qu'il faut remplacer Félix, ou est-ce qu'il faut un joueur qui est susceptible d'apporter un plus sur le plan offensif à l'Atlético, en sachant que c'est quand même des critères qui sont très particuliers.
Ouais.
Aubameyang, on vas-y.
Non, mais pour prendre l'exemple typique, ce que tu dis, c'est notamment Memphis Depay pour moi qui est pour moi un très très bon joueur, même un vrai talent. Il est en effet dans l'impasse au FC Barcelone. On sait pourquoi, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde devant, entre Lewandowski ou sur les côtés. Enfin, ça me paraît compliqué. Mais à l'Atlético, qu'est-ce qui, pour moi, Memphis Depay, on l'a vu à Lyon. Est-ce qu'il est capable de faire les efforts
Il avait déjà
voulus,
beaucoup de mal à se fondre dans le moule à Lyon.
Bah ouais, ça me paraît compliqué à l'Atlético. Je vois pas. Je suis très surpris que la presse espagnole. Alors c'est venu d'abord d'une rumeur en Italie, mais je suis très surpris. La presse espagnole on l'évoque énormément. Je suis étonné parce que pour moi, c'est pas forcément un joueur que je vois sous les ordres de Diego Simeone, alors qu'il est capable de transfigurer certains profils, mais j'ai des doutes.
Ah oui, Depay, c'est clair. Aubameyang, sur l'aspect verticalité, c'est intéressant. Ouais. Sauf que c'est plus un bon finisseur. En tout cas, ça fait un petit bout de temps qu'on le voit plus. Iglesias, pourquoi pas. Mais en tout cas, est-ce que ça ferait vraiment passer un cap à l'Atlético?
Non, mais après, ce serait peut-être pas forcément pour une option numéro 1. Dans ce cas-là, c'est peut-être plus un joueur de complément.
André Silva, on l'a dit, et puis la dernière option, c'est Marcus Thuram, on l'a évoqué.
J'aurais oublié Marcus Thuram, mais oui, bien sûr.
Pour le coup, Marcus Thuram, c'est un très bon profil pour l'Atlético, mais pour le joueur, c'est peut-être pas une bonne idée.
Non, c'est ça, et je suis pas sûr que l'Atlético va se donner les moyens, parce que visiblement aussi, ils sont dans une logique de pas vouloir forcément trop dépenser, et du coup, l'option Marcus Thuram, même s'il est libre dans les prochains mois, il va falloir se donner les moyens contractuels de l'attirer.
Voilà, on a fait le tour.
On a été pas mal.
On va pouvoir passer aux choses très sérieuses, à savoir le Mirka Quiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Bonne année.
Bonne année, Julien.
Bonne année deux fois.
Ah, pas deux fois. Il paraît que ça porte malheur.
Bah, exactement. Et je crois que même, je serai peut-être la troisième fois. Ouais, parce que je t'ai appelé, parce que tu te souviens pas, mais je t'ai applé pour te souhaiter bonne année.
Ouais.
Et après, je l'ai souhaité dans mercredi Mercado cadeau la semaine dernière.
Ce qui est étonnant, c'est que tu es sur ma liste rouge, normalement.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que quand Glenn vous appelle, il dit pas juste salut, ça va, c'est salut, ça va, quoi de neuf, moi je suis allé au marché, qu'est-ce que je voulais te dire déjà. Voilà, et après, au bout de 25 minutes d'appel, il vous dit je ne sais plus pourquoi.
C'est la nouvelle génération, ça. Tu vois, je t'envoie un texto.
T'écris des textos un petit peu? D'ailleurs, on dit plus texto depuis 2002, on dit SMS.
Ah, je croyais que tu allais dire autre chose. Non, du coup.
Non.
Oui, j'écris des.
T'écris toujours en. C'était quoi? C'était le T9 ou T8?
Non, T9.
T9, ouais. Le T9, tu te souviens?
Non, ça, j'ai jamais fait ça.
Non.
Ouais, ça, je ne pratique pas.
T'es un littéraire.
J'aime taper de bout en bout tous mes textos.
Donc, bonne année, Julien. Écoute,
c'était très très long comme introduction.
C'était très très long.
On est parti très loin.
Ouais.
Quentin, bienvenue. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles? Parce que moi-même, je les ai oubliées.
C'est vrai, tu les as oubliées. Elles sont pourtant très simples. Je vais me glisser dans la peau d'un joueur de football. Oui, c'est une nouvelle, tu vois, c'est 2023.
J'aime bien.
Je vais me glisser dans la peau d'un joueur de football et je vais vous dérouler sa carrière. Et le premier de vous deux qui découvre son identité remporte le match. Parce que là, je sais que tu me regardes bizarrement. Cette idée du Mercacuis Ranking, on est perdu. On va pas se mentir.
Ah, moi, je t'ai laissé les clés du camion.
Moi,
donc tu te débrouilles.
Attention.
Ouais.
Voilà.
On en est où alors?
Bah non, je le suis avec attention.
D'accord.
D'accord. Bah c'est toi qui as les clés, donc tu en fais ce que tu
veux. T'as pas regardé quoi. Tu sais pas que je suis premier.
Non, t'es dans les bons derniers. Mais... Et avant cela, avant de me glisser.
T'as pas regardé visiblement.
Avant de me glisser dans la peau.
Il nous embête avec un classement depuis des mois et des semaines. Et
non, mais le classement est à jour, je viens à le dire quand même.
mais tu le connais pas.
On fera le bilan à la fin de, voilà, à la fin de la saison.
Ouais.
On se remémore en chaque instant, Julien.
Absolument. Je suis content que tu l'aies. J'ai eu peur qu'elle t'échappe.
Très bien.
Et avant de me glisser, disais-je,
dans la peau. Pourquoi dans la peau et pas dans le maillot, par exemple? Qu'est-ce qui t'intéresse?
Dans la peau, parce que
ça va être long si on rebondit sur chaque mot comme ça.
Ouais. Avant cela, donc la règle Pereira-Morin, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Je vous écoute, messieurs.
Théo Walcott.
Ah bah ni l'un ni l'autre, voilà, comme ça c'est réglé, c'est ni Hudson Edouard ni Théo Walcott. Qui joue encore Théo Walcott?
Oui, demain. Alors j'ai un petit doute.
Bien sûr qu'il joue encore, mais vous rigolez ou quoi? Bien sûr qu'il joue encore.
Il joue où?
Southampton.
À Southampton?
Ah, les petits doutes.
On peut vérifier ça en régie? On va vérifier, on va vérifier ça, on va faire le quiz et on nous donnera...
Non, je veux qu'on attende.
On nous donnera la réponse après le quiz. Et toi, c'était qui, Hudson Edouard? Je ne sais même plus où il joue, Hudson Edouard.
À Leicester, sauf... Crystal Palace.
D'accord.
Oui.
Bon. Je crois. Je dis ça parce qu'il s'est illustré ce week-end, si mes souvenirs sont...
Si tes souvenirs sont bons, donc à mon avis, c'est qu'il ne s'est pas du tout illustré.
Il était sur le banc. Les souvenirs de week-end, ça fait un peu loin.
Et il joue bien à Southampton, on nous dit. Alors là, toutes nos excuses.
Mais les gars, il y a des joueurs qui suivent le, il y a des gens qui suivent le foot et d'autres qui.
Alors glissons-nous dans la peau.
Ouais. Alors je vais pas me glisser dans la peau de Théo Walcott, mais bon, dans la peau de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est interminable. On n'en peut plus. C'est parti.
J'ai tout donné.
On ne regarde pas l'affiche, bien sûr, Glenn, j'étais à l'œil.
On essaye.
Et puis c'est parti. J'évolue dans les équipes de jeunes dans lesquelles mon père dirige les centres de formation.
Christian Gourcuff.
Le stade Malherbe de Caen, puis la S Beauvais. Je tente par la suite de m'émanciper en répondant favorablement à une offre du RC Lens. En juin 2008, je signe mon premier contrat professionnel avec le club du Pas-de-Calais, où je progresse à compter de 2004 dans les équipes de jeunes. En septembre 2008, en Coupe de la Ligue contre Sedan, je marque mon premier but en équipe première, qui plus est, lors de mon premier match avec Lens, un quart d'heure après être rentré en jeu à la place de Fabien Laurenti. Quelques jours plus tard, je joue mon premier match de Ligue 2 contre le FC Metz, entrant peu après l'heure de jeu en remplaçant Geoffrey Doumeng.
Je l'ai pas. Là. Tu peux ça y aller. Là.
Lors du marché des transferts hivernales, je suis annoncé vers divers clubs, notamment Tubize, Moucron ou le Cercle Bruges, mais aussi certains clubs français comme l'AS Cannes. Finalement, je signe un contrat au Stade Brestois. Pour mon premier match contre Laval, je me montre tout de suite décisif en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu. J'enchaîne les réalisations et me place sur la troisième marche du classement des buteurs. Je suis appelé chez les espoirs français par Eric Monberts en novembre 2009. Alors que
Nolan Roux.
Il a été très rapide.
Non, j'y crois pas.
Il a été très rapide.
C'est vrai ?
Nolan Roux. C'est la bonne réponse. Bravo, Glenn. Nolan Roux.
Eh ben...
Je suis même en train de regarder si tu me.
Ouais, non, c'est vrai. C'est bien.
C'est pas une vanne. C'est pas une vanne.
C'est pas une vague.
J'ai perdu à la régulière sur quelqu'un
ouais,
qui était.
À la régulière sur un parcours régulier.
Bravo.
Contre.
C'est un homme nouveau, Glenn.
Alors, Glenn, là, je peux vous dire.
Est-ce que ça faisait pas partie de tes bonnes résolutions, ça, de gagner au Mercato?
J'en viens même à suspecter quelque chose.
J'y ai pensé, je retravaille avant.
Attends, regarde-moi bien dans les yeux. Attends, Julien, parce que là, on est. Non, mais attends, là, il n'y a plus d'émission, là. Regarde-moi bien dans les yeux, Julien.
Une valise de billets, là. Non, quelque chose comme ça.
Une valise promesse. De billets. Tu je oses mettre en ça. Doute l'intégrité.
Non.
Mais c'est moche, ça.
Regarde-nous, est-ce qu'on a des têtes d'escrocs?
C'est moche.
Oui.
Excuse-moi, je vais être vulgaire, c'est dégueulasse. Que tu fais.
Non, mais je...
Tu retires?
Je suis mauvais joueur.
Non, je ne retire pas. D'accord. Alors oui, Nolan Roux. Où est-ce qu'il joue, Nolan Roux? Parce que pourquoi j'ai choisi Nolan Roux?
Alors Nolan Roux, où il joue? Parce il joue pas... Non, j'ai dit une bêtise. Non, je croyais l'avoir vu en Coupe de France ce week-end. Oui, c'est pour ça.
Oui, dans quel club? Ça va être très long. À la Berrichonne de Châteauroux.
Oui,
contre le Paris Saint-Germain.
Évidemment.
Il joue à la Berrichonne depuis août 2021.
Oui, c'est moi. J'aurais pu le retrouver.
Et avant ça, il a fait. Oui. Est-ce que vous sauriez me dire ses clubs? Alors, il y a eu Brest. Ensuite, et il en a fait.
Il en a fait beaucoup.
Alors, en fait, il a fait un pic. Bon, après, on va pas être méchant, mais.
Il n'est pas passé par Saint. Non, pas.
Alors, il a fait.
Il est passé.
Lille.
Ah oui, Lille.
Souvenez-vous, Lille.
Bah, Lille, c'était le pic. Hein.
Lille, c'était le pic. C'était très rapide dans la carrière. Vrai. Ensuite.
Et du coup.
Ensuite, Saint-Étienne.
Saint-Étienne.
Il n'est pas retourné à Brest.
Il est allé en Ligue 2, surtout.
Il est allé en Ligue 2 avec Guingamp. Avec Nîmes, il a vécu deux relégations successives ça. Et puis donc depuis.
Et surtout, je crois qu'il n'a pas marqué cette saison, si je me souviens.
Je t'avoue que je suis pas très assidûment le championnat national.
Je crois que pour le moment, c'est ça.
Mais en tout cas,
on le salue,
Nolan, bien sûr, Nolan Roux.
Et on salue
son papa aussi.
On salue la performance de
son papa, donc qui était directeur des centres de formation de Caen et de Beauvais.
Tout à fait.
Voilà.
Bravo.
Bravo à toute la famille. On les embrasse.
Et bravo à Glenn.
Et bravo, surtout à Glenn, qui démarre l'année tambour battant.
Magnifiquement, surtout que la semaine dernière, j'étais à ça.
T'étais à ça la semaine dernière.
La semaine dernière. Ouais,
c'est vrai, j'y ai assisté sur Rudiger. Non, mais c'est vraiment un homme nouveau.
C'est un homme neuf.
Non, mais je vais peut-être m'arrêter là, du coup.
Ouais. Bah, franchement, s'arrêter au sommet, un peu comme Hugo Lloris.
C'est ce qu'il a déclaré.
Sauf que toi, tu gagnes tes finales.
Eh bah, ben, il tire les pieds.
On l'embrasse, hein, Hugo. Pour tout ce qu'il
c'est
a fait.
C'est sympa, bel hommage.
Bel hommage.
Il en a gagné des finales.
Il en a gagné, ouais. Il en a perdu, il en a gagné.
Pas des séances de tir au
but. C'est le football, quoi. J'ai envie de te dire.
C'est le football, c'est le mercacuis, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est la vie, c'est le monde.
Voilà, c'est sur cette belle conclusion
Ah oui, si.
J'allais dire où joue Théo Walcott. Mais on le sait.
Donc c'est pour ça. Il joue. Attendez, test. Il joue.
Southampton.
Ok.
J'ai écouté.
Vraiment, il est le joueur par hasard. Bref. merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle journée. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.
Ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.